Chapitre 7. Instruction en vue de l'entrée en Canaan. Le juste jugement de Dieu envers les nations. Quand l'Éternel ton Dieu t'aura introduit dans le pays où tu entres pour le posséder, et qu'il aura chassé de devant toi des nations nombreuses, cette nation plus nombreuse et plus forte que toi, et que l'Éternel ton Dieu les aura livrées devant toi, et que tu les auras frappées, tu les détruiras entièrement comme un anathème. Tu ne traiteras point alliance avec elles, et tu ne leur feras pas grâce. Versets 1 et 2. Nous avons ici devant nous les voies de Dieu envers les nations, en rapport avec son peuple Israël. Si d'une part nous voyons le déploiement de la grâce de Dieu envers son peuple, en vertu de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, de l'autre nous voyons l'exécution du jugement sur les nations, à cause de leur méchanceté. Dans le premier cas, se montre la souveraineté de la grâce de Dieu, dans le second, sa justice. Sa gloire brille dans l'un et dans l'autre. Toutes les voies de Dieu, en grâce comme en jugement, proclament ses louanges et seront à jamais célébrées par son peuple. Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Justes et véritables sont tes voies, ô roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur? Et qui ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, car toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes faits justes ont été manifestés. Apocalypse 15, versets 3 et 4. Voilà l'esprit avec lequel nous devons considérer les voies de Dieu en gouvernement. Bien des personnes peuvent être étonnées ou même choquées en lisant les ordres donnés à Israël au sujet des Cananéens au commencement de notre chapitre. Il leur semble qu'un Dieu bon et miséricordieux ne saurait commander à son peuple de détruire des peuples entiers. Mais qui sommes-nous pour juger Dieu? Nous ne sommes pas compétents pour porter un jugement sur les voies de Dieu, et par conséquent, c'est le comble de la présomption pour de pauvres mortels ignorants d'essayer de le faire. Faisons taire tout raisonnement coupable. Que Dieu soit vrai et tout homme menteur, selon ce qui est écrit, en sorte que tu sois justifié dans tes paroles et que tu aies gain de cause quand tu es jugé. Romains 3, verset 4. Tout doit contribuer à la gloire de Dieu. Ne l'oublions pas. Et laissons de côté tous les faux raisonnements. C'est notre privilège de justifier Dieu dans toutes ses voies, de courber la tête avec révérence à la vue de ses jugements insondables et de demeurer fermement assuré que toutes les voies de Dieu sont bonnes. Nous ne les comprenons pas toutes. Ce qui est borné comprendrait-il l'infini? Les actes du gouvernement de Dieu sont autant au-dessus de la raison humaine que le Créateur est au-dessus de la créature. Pourquoi arrive-t-il, par exemple, qu'une ville entière remplie d'hommes, de femmes et d'enfants soit en quelques heures englouti sous des flots de lave brûlante ou balayé par quelque autre cataclysme? Nous ne pouvons le dire. Voyez les milliers d'êtres humains qui vivent dans la misère la plus profonde. Pouvons-nous dire pourquoi Dieu le permet? Sommes-nous appelés à le faire? Il est évident que nous n'avons pas à discuter ces questions. Si, dans notre ignorance et notre folie, nous nous mettons à raisonner sur les mystères inscrutables du gouvernement divin, nous nous égarerons complètement. Beaucoup de chrétiens ont de la difficulté à comprendre les expressions des psaumes qui appellent le jugement sur les méchants. Ce langage serait, en effet, tout à fait déplacé chez les chrétiens. Nous sommes exhortés à aimer nos ennemis, à faire du bien à ceux qui nous haïssent et à prier pour ceux qui nous font du tort et nous persécutent. Mais ce qui serait totalement hors de place dans le temps de l'Église, dans le temps de la grâce, pour le peuple céleste de Dieu, était autrefois et sera dans l'avenir en parfaite harmonie avec la position d'Israël, le peuple terrestre. Aucun chrétien intelligent ne songerait un instant à appeler la vengeance sur ses ennemis ou sur les méchants. Il y aurait là une grossière inconséquence. Nous sommes appelés à être les exemples vivants de la grâce de Dieu envers le monde, à marcher sur les traces de Jésus, débonnaire et humble de cœur, à souffrir pour la justice, à ne pas résister au mal. Dieu use maintenant de patience et de miséricorde envers le monde. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. Nous avons à l'imiter et à être parfaits comme notre Père céleste est parfait. Matthieu 5, versets 45 et 48. Un chrétien qui agirait autrement donnerait une idée fausse de son Père céleste. Mais plus tard, lorsque l'Église aura quitté la terre, il n'en sera plus ainsi. Dieu jugera les nations suivant la manière dont elles auront traité son peuple Israël. Ainsi, nous pouvons comprendre les instructions données au commencement de notre chapitre. Les Cananéens ne devaient pas trouver grâce aux yeux des Israélites. Leur iniquité était venue à son comble, et il ne restait plus pour eux que l'exécution du jugement divin. Pas d'alliance entre Israël et les Cananéens. Tu les détruiras entièrement comme un anathème. Tu ne traiteras point alliance avec elles, et tu ne leur feras pas grâce. Tu ne t'allieras point par mariage avec elles. Tu ne donneras pas ta fille à leur fils, et tu ne prendras pas leur fille pour ton fils. Car ils détourneraient de moi ton fils, et ils serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'embraserait contre vous, et te détruirait aussitôt. Mais vous leur ferez ainsi. Vous démolirez leurs autels, et vous briserez leurs statues, et vous abattrez leurs achères, et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Versets 2 à 5. Tels étaient les ordres donnés par l'Éternel à son peuple. Ils étaient clairs et compréhensibles. Pas de grâce pour les Cananéens, pas d'alliance avec eux, aucune union, aucune liaison quelconque. Un jugement sans miséricorde devait être leur part. Hélas, les Israélites ne tardèrent pas à négliger ces ordres divins. À peine avaient-ils posé leurs pieds dans le pays de Canaan qu'ils firent alliance avec les Gabaonites. Josué 9. Josué lui-même tomba dans le piège. Les vêtements déchirés et le pain moisi de ce peuple rusé trompèrent les principaux de la congrégation et les firent agir en opposition directe avec le commandement de Dieu. S'ils avaient été gouvernés par l'autorité de la parole, ils ne seraient pas tombés dans cette faute grave et n'auraient pas traité alliance avec un peuple qui aurait dû être complètement détruit. Mais ils jugèrent d'après leur vue et ils en recueillirent les fruits amers. L'obéissance inconditionnelle est la meilleure sauvegarde contre les ruses de l'ennemi. Le récit des Gabaonites était sans doute plausible, et tout leur aspect donnait un air de vérité à leurs affirmations. Mais rien de tout cela n'aurait dû avoir le moindre poids pour Josué et pour les principaux d'Israël. Ils auraient dû se rappeler les commandements de l'Éternel et s'en tenir à sa parole. Il est instructif de voir que les vieux vêtements, le pain moisi et les paroles rusées des Gabaonites accomplirent ce que les murs de Jéricho n'avaient pu faire. Les ruses de Satan sont plus à redouter que sa puissance. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Éphésiens 6, verset 11. La raison n'est pas un guide pour le peuple de Dieu. Il doit être uniquement et entièrement dirigé et gouverné par sa parole. La dépendance de Dieu et l'obéissance à sa parole sont à la portée du plus simple et du plus ignorant des enfants de Dieu. Il n'y a pas besoin d'une vaste intelligence, ni d'une grande science, car alors que deviendrait la grande majorité des chrétiens? Si les savants, les penseurs, les gens instruits étaient seuls capables de tenir ferme contre les ruses de l'adversaire, la plupart d'entre nous devraient renoncer à la lutte. Mais, grâce à Dieu, il n'en est pas ainsi. Au contraire, en étudiant l'histoire du peuple de Dieu à travers les âges, nous voyons que la sagesse et la science humaine, quand elles ne sont pas laissées à leur vraie place, deviennent des pièges. Par qui ont été introduites la plupart des hérésies qui ont troublé l'Église depuis des siècles? Non par les simples et les ignorants, mais par les savants et les intelligents. Et dans le passage du livre de Josué, que nous venons de citer, qui est-ce qui fit alliance avec les Gabaonites? Non le commun du peuple, mais les principaux de l'assemblée. Tous, évidemment, commirent la faute, mais les principaux d'Israël donnèrent l'exemple. Les chefs et les conducteurs de l'assemblée tombèrent dans les pièges du diable pour avoir négligé d'interroger la bouche de l'Éternel. Tu ne traiteras point alliance avec elles. Rien ne saurait jamais être une excuse pour diminuer, si peu que ce soit, l'obligation d'obéir à la parole de Dieu. Et si nous rencontrons des difficultés ou des circonstances embarrassantes, que devons-nous faire? Nous attendre à Dieu patiemment, humblement, avec foi, et assurément il nous montrera notre chemin. Il fera marcher dans le chemin droit les débonnaires, et il enseignera sa voie aux débonnaires. Psaume 25, verset 9. Un peuple mis à part pour Dieu. Ensuite, Moïse place devant le peuple la raison morale pour laquelle il devait rester entièrement séparé des Cananéens. Car tu es un peuple saint, consacré à l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi, afin que tu sois pour lui un peuple qui lui appartienne en propre, d'entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Verset 6. Le principe posé ici est de la plus grande importance. Pourquoi Israël devait-il être entièrement séparé des Cananéens et refuser absolument de faire aucune alliance avec eux? Pourquoi devait-il démolir leurs autels, briser leurs statues et abattre leurs ashères? Simplement parce qu'il était un peuple saint. L'Éternel les avait mis à part pour lui. Il les avait choisis, il les avait sauvés, et son amour reposait sur eux. Ainsi, il avait le droit de prescrire ce qu'il devait être et comment il devait agir. Vous serez saints, car je suis saint. Lévitique 11, verset 44. Ce n'était nullement sur le principe de « Tiens-toi loin, ne me touche pas, car je suis saint vis-à-vis de toi. » Ésaïe 65, verset 5. Les Israélites ne valaient pas plus que les autres nations. Ce n'est pas parce que vous étiez plus nombreux que tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, car vous êtes le plus petit de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous a aimé, et parce qu'il garde le serment qu'il a juré à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir à main forte et t'a racheté de la maison de servitude, de la main du Pharaon, roi d'Égypte. Versets 7 et 8. Tous leurs privilèges, leur dignité et leur bénédiction provenaient non de ce qu'ils étaient en eux-mêmes, mais de ce que l'Éternel les avait aimés dans sa grâce souveraine et avait fait alliance avec leur père. Il y avait là de quoi les préserver de l'orgueil et de la vanterie. C'était aussi la base sûre et ferme de leur bonheur et de leur sécurité. Tout reposait sur la stabilité immuable de la grâce de Dieu. Dieu veut que nulle chair ne se glorifie devant lui. Il abaisse toute prétention humaine et l'orgueil du cœur de l'homme. Israël devait se souvenir de son origine, de sa condition précédente, de sa servitude en Égypte. Il était le plus petit de tous les peuples. Il n'était nullement meilleur que les nations qui l'entouraient, et par conséquent, ne pouvait expliquer sa grandeur et son élévation que par l'amour de Dieu et sa fidélité à son serment. Non point à nous, ô Éternel, non point à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta vérité. Psaume 115, verset 1. Un Dieu qui rétribue. Connais donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu, le Dieu fidèle, qui garde l'alliance et la bonté jusqu'à 1000 générations à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements, et qui récompense en face ceux qui le haïssent pour les faire périr. Il ne différera pas à l'égard de celui qui le hait, il le récompensera en face. Versets 9 et 10. Deux faits de la plus haute importance sont mis ici devant nous. L'un est rempli de précieux encouragements pour ceux qui aiment Dieu en sincérité. L'autre est d'une grande solennité pour ceux qui le méprisent. Tous ceux qui aiment Dieu et gardent ses commandements peuvent compter sur sa fidélité et sa grâce en tout temps et en toutes circonstances. Toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos. Romains 8, verset 28. Si l'amour de Dieu est dans nos cœurs et sa crainte devant nos yeux, nous pouvons avancer avec courage et avec une joyeuse confiance, assurés que tout sera bien pour nous. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance envers Dieu, et quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous pratiquons les choses qui sont agréables devant lui. 1 Jean 3, versets 21 et 22. C'est là une vérité éternelle pour Israël comme pour l'Église. Deutéronome 7, aussi bien que 1 Jean 3, proclament la même grande vérité pratique. Ils nous disent que Dieu prend plaisir en ceux qui le craignent, qui l'aiment et gardent ses commandements. Y a-t-il là du légalisme? Nullement. C'est d'amour qu'il s'agit. C'est ici l'amour de Dieu, que nous gardions ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. 1 Jean 5, verset 3. Les motifs, le caractère et l'esprit de notre obéissance sont tout l'opposé du légalisme. Il y a des personnes toujours prêtes à crier au légalisme lorsqu'on leur parle d'obéissance. Elles sont dans une grave erreur. S'il était question d'acquérir par notre obéissance la position et la relation d'enfant de Dieu, alors l'accusation de légalisme serait pleinement justifiée. Mais donner ce nom à l'obéissance chrétienne, c'est, nous le répétons, une grave erreur. L'obéissance ne peut précéder la relation filiale, mais cette relation doit toujours être suivie de l'obéissance. Occupons-nous maintenant de la vérité solennelle que nous présente le verset 10. Il ne différera pas à l'égard de celui qui le hait, il le récompensera en face. Si ceux qui aiment Dieu sont tendrement encouragés à garder ses commandements, nous avons aussi un sérieux avertissement à ceux qui le haïssent. Le temps vient où Dieu agira en personne, face à face, avec ses ennemis. Qu'il est terrible de penser qu'il y a des hommes qui haïssent Dieu, qui haïssent celui dont le nom est lumière et amour, la source de toute bonté, l'auteur de tout don parfait, celui dont la main généreuse supplée aux besoins de toute créature. Dieu est infiniment bon, mais il est en même temps celui qui peut détruire et l'âme et le corps dans la géhenne. Matthieu 10, verset 28. Chacun doit se demander s'il est de ceux qui aiment Dieu ou de ceux qui le haïssent. Dans cette grande question, il n'y a pas de terrain neutre. Il nous faut être pour ou contre. Voir Matthieu 12, verset 30. En général, les hommes ne tardent pas à montrer sous quel drapeau ils servent. Il arrive le plus souvent que l'inimitié du cœur envers Dieu se montre par la haine pour son peuple, pour sa parole, son culte, son service. Tout cœur inconverti recèle une inimitié positive contre Dieu. Tout homme, dans son état naturel, est Dieu. Or, Dieu déclare qu'il ne différera pas à l'égard de celui qui le hait. Il le récompensera en face. Beaucoup cherchent à se persuader et à persuader les autres que Dieu est trop bon, trop miséricordieux, pour traiter ses créatures avec sévérité. Ils s'imaginent que Dieu laissera passer ou traitera légèrement le mal et ceux qui le font. Il est vrai que, dans sa grâce souveraine, Dieu peut nous pardonner nos péchés, effacer nos transgressions et nous justifier parfaitement. Mais c'est une chose entièrement différente. C'est la grâce régnant par la justice, en vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est Dieu, dans son amour merveilleux, donnant une justice au pauvre pécheur qui sait et reconnaît qu'il n'a aucune justice, ni n'en pourrait avoir. Dieu, dans son amour infini, a trouvé un moyen par lequel il peut être juste et justifier celui qui croit simplement en Jésus. Mais quel est ce moyen ? Dieu a-t-il laissé de côté le péché, comme s'il n'était rien? A-t-il abaissé quelque peu la mesure de sa sainteté? Contemplons la croix. Il n'y a jamais eu une manifestation plus solennelle de la haine de Dieu pour le péché. Il n'y a jamais eu une revendication plus glorieuse de la sainteté et de la justice divine que dans l'œuvre accomplie par Jésus-Christ en vue de notre salut. Si nous désirons voir dans toute sa réalité le gouvernement de Dieu, sa colère contre le péché et le vrai caractère de sa sainteté, nous n'avons qu'à contempler la croix, à écouter ce cri d'angoisse qui sortit du cœur du Fils de Dieu et retentit au milieu des ténèbres du calvaire. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jamais une telle question n'avait été posée auparavant, et jamais il n'en a été posé de semblable depuis lors. Elle demeure unique dans l'éternité. La croix est la mesure de la haine de Dieu contre le péché, tout comme elle est la mesure de son amour pour le pécheur. C'est le fondement éternel, le terrain divinement juste, sur lequel Dieu peut pardonner nos péchés et nous constituer parfaitement justes. Mais si les hommes méprisent la croix et persistent dans leur haine contre Dieu, tout en disant qu'il est trop bon et trop clément pour punir les méchants, que deviendront-ils? L'Écriture répond : Qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3, verset 36. Ce verset est un passage d'une immense importance. Non seulement il expose la grande vérité que tous ceux qui croient au Fils de Dieu ont le privilège d'avoir la vie éternelle, mais en outre il coupe à leurs racines deux hérésies qui ont cours dans la chrétienté, celle qui prétend qu'à la fin tous seront restaurés et bénis, et celle qui prétend que les méchants seront anéantis. « Il n'en sera pas ainsi, » dit notre passage, « car ceux qui n'obéissent pas au Fils ne verront pas la vie. Et la colère de Dieu demeure sur eux, ce qui est incompatible avec l'anéantissement. Un Dieu juste aurait-il livré à la mort son Fils unique et bien-aimé, ses délices de tous les jours, alors que ce Fils était fait péché pour nous, pour laisser ensuite échapper les pécheurs qui ne veulent pas se repentir? Jésus, l'homme parfait, saint et sans tache, le seul homme parfait qui ait jamais marché sur la terre, a dû souffrir pour les péchés, le juste pour les injustes. Est-ce pour que les méchants, les incrédules, ceux qui haïssent Dieu et désobéissent au Fils, soient sauvés, bénis et introduits dans le ciel? Sous prétexte que Dieu est trop bon pour punir éternellement les pécheurs, a-t-on l'audace d'affirmer que les pécheurs, les moqueurs et les rebelles peuvent être sauvés sans Christ? Le Seigneur Jésus est-il mort pour rien? Dieu l'a-t-il frappé et a-t-il caché sa face de lui sans nécessité? Pourquoi toutes les horreurs du calvaire? Pourquoi les 3 heures des ténèbres? Pourquoi le cri d'angoisse « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pourquoi, si les pécheurs peuvent aller au ciel sans cela? Quelle inconcevable folie! Oh, si les hommes pouvaient écouter la parole de Dieu, s'ils pouvaient croire à ses avertissements au sujet de la colère à venir, du jugement et des peines éternelles. Si, au lieu de chercher à se persuader qu'il n'y a pas d'enfer, pas de tourments éternels, ils écoutaient la voix qui les avertit de s'enfuir, avant qu'il ne soit trop tard, vers le refuge que leur présente l'Évangile, là serait la vraie sagesse. La parole de Dieu subsistera à toujours. Nous y voyons les actes de son gouvernement à l'égard de son peuple Israël. Laissait-il passer le mal chez son peuple terrestre? Non, au contraire, il leur appliquait continuellement sa verge, et cela précisément parce que c'était son peuple, ainsi qu'il le dit par le prophète Amos. « Écoutez cette parole que l'Éternel prononce sur vous, fils d'Israël, sur la famille entière que j'ai fait monter du pays d'Égypte, disant « Je vous ai connu, vous seul, de toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je visiterai sur vous toutes vos iniquités. » Amos 3, versets 1 et 2. Le même principe est appliqué aux chrétiens dans la première épître de Pierre. Car le temps est venu de commencer le jugement par la maison de Dieu. Mais s'il commence premièrement par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé difficilement, où paraîtra l'impie et le pécheur? Chapitre 4, versets 17 et 18. Dieu châtie les siens parce qu'ils sont les siens, et afin qu'ils ne soient pas condamnés avec le monde. 1 Corinthiens 11, verset 32. Les hommes de ce monde cheminent paisiblement, insouciants, mais le jour du jugement vient, un jour de colère inexorable. Dieu a établi un jour auquel il doit juger en justice la terre habitée par l'homme qu'il a destiné à cela. Acte 17, verset 31. Dieu accomplira ses promesses. Et tu garderas les commandements et les statuts et les ordonnances que je te commande aujourd'hui pour les pratiquer. Et, si vous écoutez ces ordonnances, et que vous les gardiez et les fassiez, il arrivera que l'Éternel, ton Dieu, te gardera l'alliance et la bonté qu'il a jurée à tes pères. Et il t'aimera et te bénira et te multipliera. Et il bénira le fruit de ton ventre et le fruit de ta terre, ton froment et ton moût et ton huile et la portée de ton gros bétail et l'accroissement de ton menu bétail sur la terre qu'il a juré à tes pères de te donner. tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura parmi toi et parmi tes bêtes ni mâle, ni femelle stérile. Et l'Éternel éloignera de toi toute maladie, et il ne mettra sur toi aucune des plaies malignes de l'Égypte que tu as connues, mais il les mettra sur tous ceux qui te haïssent. Et tu consumeras tous les peuples que l'Éternel, ton Dieu, te livre. Ton œil ne les épargnera pas, et tu ne serviras pas leur Dieu, car ce serait un piège pour toi. Versets 11 à 16. Quel plaidoyer puissant et touchant! Remarquez le contraste. Israël devait écouter, garder et faire. L'Éternel allait aimer, bénir et multiplier. Hélas, Israël manqua totalement et honteusement à ce que l'Éternel demandait de lui. Et, par conséquent, au lieu de la bénédiction et de l'accroissement, il y eut pour lui que jugement, malédiction, stérilité, dispersion et désolation. Mais, béni soit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, si Israël a failli sous la loi et sous le gouvernement, lui n'a pas fait défaut dans sa riche grâce et dans sa miséricorde. Il gardera l'alliance qu'il a jurée à leur père. Pas une de ses promesses ne tombera à terre. Il les accomplira à la lettre. Et s'il ne peut le faire en vertu de l'obéissance d'Israël, il le fera à cause du sang de l'alliance éternelle, du précieux sang de Jésus, son Fils éternel. Gloire et honneur à son nom. Le Dieu d'Israël ne peut laisser une seule de ses précieuses promesses tomber à terre. Que deviendrions-nous s'il le faisait? Quelle assurance, quelle paix pourrions-nous avoir si l'alliance de l'Éternel avec Abraham manquait en un seul point? Il est vrai qu'Israël a perdu tous ses droits. Mais Dieu reste le même en dépit de la lamentable infidélité d'Israël. Les dons de grâce et l'appel de Dieu sont sans repentir. Romains 11, verset 29. Dieu tiendra certainement son serment à Abraham, malgré toute la ruine de la postérité d'Abraham. Soyons-en fermement convaincus, bien que certains disent le contraire. Israël sera restauré et béni, et il se multipliera dans sa terre. Un jour, les Israélites reprendront leurs harpes suspendues au saule, et, à l'ombre de leurs vignes et de leurs figuiers, ils chanteront les louanges de leur Dieu Sauveur durant le glorieux repos millénaire qui les attend. Tel est le témoignage invariable de l'Écriture, et il s'accomplira jusqu'au moindre détail, pour la gloire de Dieu et en vertu de l'Alliance éternelle. Dans les derniers versets du chapitre, Moïse cherche à encourager le peuple au sujet des nations qu'il pouvait redouter en Canaan. Il comprend ses craintes et cherche à les dissiper. « Si tu dis dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi, comment pourrais-je les déposséder ? Ne les crains pas. Souviens-toi de ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait au Pharaon et à toute l'Égypte, de ces grandes épreuves que tes yeux ont vues, et des signes et des prodiges, et de la main forte et du bras étendu, par lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir. Ainsi fera l'Éternel, ton Dieu, à tous les peuples dont tu as peur. » Versets 17 à 19. Le grand remède pour toutes les craintes est simplement d'avoir l'œil fixé sur le Dieu vivant. Alors, le cœur est élevé au-dessus des difficultés. On ne saurait nier qu'il y ait des difficultés de toute espèce. Et, pour encourager ceux qui sont abattus, pour comprendre les âmes qui passent par la lutte, il ne faut pas fermer les yeux sur la réalité de leurs épreuves. Comment Moïse s'efforce-t-il d'encourager les cœurs de ses frères ? « Tu ne t'épouvanteras pas, » dit-il au verset 21. Non parce qu'il n'y avait pas d'ennemis, de difficultés ou de dangers, mais parce que l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un Dieu grand et terrible. C'était là le vrai encouragement. Les ennemis étaient là, mais Dieu était un refuge assuré. Josaphat, pressé par l'ennemi, crie à Dieu. « Il n'y a point de force en nous devant cette grande multitude qui vient contre nous, et nous ne savons ce que nous devons faire. Mais nos yeux sont sur toi. » De Chroniques 20, verset 12. Voilà le précieux secret. Les yeux reposent sur Dieu et sa puissance intervient. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Romains 8, verset 31. Moïse va au-devant des craintes qui s'élèvent dans le cœur d'Israël. Ces nations sont plus nombreuses que lui. Oui, mais elles ne sont pas plus fortes que le Dieu grand et terrible. Quelle nation pourrait lui résister ? Toutes avaient un terrible compte à rendre à cause de leurs iniquités. La coupe était comble. Le moment de la rétribution était arrivé, et le Dieu d'Israël allait les exterminer devant son peuple. Israël, par conséquent, n'avait pas lieu de craindre la puissance de l'ennemi. L'Éternel était avec lui. Mais il y avait une chose qui était bien plus à redouter. C'était l'influence séductrice de l'idolâtrie. Aussi l'Éternel dit-il, « Vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Tu ne désireras pas l'argent ou l'or qui sont dessus, et tu ne les prendras pas pour toi. » Verset 25. N'aurait-on pas pu récupérer cet or et cet argent et en tirer un bon parti ? Ah, c'est justement de cette manière que nos pauvres cœurs sont portés à raisonner. Et c'est ainsi que nous nous séduisons nous-mêmes, lorsque nous sommes appelés à juger et à abandonner ce qui est mal. Nous pensons que nous pouvons faire quelques réserves. Nous sommes prêts à abandonner une partie du mal, mais non pas tout. Nous sommes d'accord de brûler le bois de l'image, mais nous voulons épargner l'or et l'argent. Fatale illusion. Tu ne désireras pas l'argent ou l'or qui sont dessus, et tu ne les prendras pas pour toi, de peur que, par là, tu ne sois pris dans un piège, car c'est une abomination pour l'Éternel, ton Dieu. Verset 25. Il faut que tout soit détruit. Retenir une parcelle de la chose maudite, c'est tomber dans le piège de l'ennemi et nous associer avec ce qui est une abomination aux yeux de Dieu, quelque estime que les hommes en aient. Or, d'après le dernier verset du chapitre, introduire une abomination dans sa maison, c'est devenir anathème soi-même. Combien cela est solennel !